Je me rappelle, je suis 39 novembre 1982. Philosophie morale, perché 30 novembre 1982, rime.
Nous allons continuer l'analyse de l'amour d'amitié. En essayant de comprendre comment cet amour d'amitié qui nous donne conscience de notre bonheur, de notre finalité, de notre lien avec un bien absolu qui est la personne humaine, permet ce dépassement. Et il faudrait ajouter, en nota bene, que je crois que c'est important pour comprendre bien le statut de la philosophie morale, il faudrait ajouter que si je prends cet amour d'amitié dans ce qu'il a de plus explicite, c'est-à-dire ce qui est premier dans l'ordre de nature, de perfection, il ne faut pas oublier que dans l'ordre génétique, notre sens moral va de fait s'épanouir dans le lien d'amour qui va exister entre le tout petit enfant et sa mère. Oui, premier dans l'ordre de perfection, premier dans l'ordre génétique. Je souligne, parce que je n'ai peut-être pas assez dit, et c'est important, il est bien évident que s'il n'y a pas eu un lien d'amour entre l'enfant, donc chacun de nous-mêmes quand nous étions petits, rappel. Hein. On ne peut pas fonder la philosophie sur un rappel. Hein. C'est ça pour ça que je parle de l'amitié vécue actuellement. Mais l'enfant ne fait pas de la philosophie quand il est au berceau ou quand il a un an. Si vous l'avez fait, j'espère que votre mère a gardé ses carnets intéressants de philosophe, de petit génie. Il va. Mais il y a une réalité à laquelle je peux me référer. C'est comme toujours, l'ordre génétique, philosophiquement, est un ordre que je respecte, un ordre qui existe en fonction de l'ordre de perfection. Et c'est important de voir les deux. Parce que c'est intéressant de voir quand, génétiquement, j'ai commencé d'avoir le sens moral. Professeur Piaget, psychologue, dit que le sens moral commence à 14 ans. Alors je souligne qu'il a eu l'expérience de petit Genevois, n'est-ce pas, et qu'alors peut-être ils n'ont eu le sens moral qu'à 14 ans. C'est facile, n'est-ce pas, que c'est l'expérience qu'il donne. Et puis je ne sais pas si au fond le sens moral dont il parle, c'est le même que celui dont nous parlons. Il dit que le sens moral se développe à l'âge de 14 ans quand on commence à avoir le sens de l'équipe. C'est-à-dire qu'on joue ensemble et qu'on a le sens d'une responsabilité au niveau de l'équipe. Vous voyez, c'est très curieux, c'est intéressant à noter, parce qu'il faut noter ces choses-là dans la question que nous nous plaçons de voir ce que c'est qu'une philosophie morale. Il faudrait relever, il y aurait sûrement beaucoup d'autres. Piaget, je le sais, parce que je me suis toujours intéressé à Piaget, et que j'ai eu des étudiants qui ont été très calés dans Piaget, et qui ont fait des dissertations sur Piaget à Fribourg. Et là, c'est intéressant de voir que pour Piaget, ce n'est qu'à 14 ans que l'éveil moral se fait. Alors, il rit un tout petit peu que dans l'Église catholique, on dit que c'est à 7 ans, mais non, à 7 ans, on n'a pas le sens de l'équipe. Vous voyez, le sens moral de l'équipe. Est-ce que c'est le sens moral ou c'est tout simplement le sens de la communauté? Le sens de la communauté s'éveille après le sens moral. C'est pas du tout premier. C'est pas le sens de l'équipe qui fonde la morale. C'est la morale qui fonde le sens de l'équipe. Alors c'est intéressant du reste de noter que ça vient qu'à 14 ans. Alors que je crois que le sens moral vient beaucoup plus vite. On va essayer de comprendre génétiquement, pas dans tout son absolu, mais génétiquement, il vient beaucoup plus vite. Et alors, au point de vue sens moral de l'équipe, c'est vrai que c'est quand on joue ensemble qu'on a le sens, qu'on respecte les règles, et les gosses sont farouches là-dessus. Ah, tu n'as pas respecté la règle? Ils sont terribles là-dessus. Effrayant, ils ont un sens extraordinaire du règlement qu'on doit adapter, qu'on doit accepter pour jouer le jeu de l'équipe. Et alors à ce moment-là, on a un sens de l'équipe, on a un sens de la coopération, on a un sens de la solidarité. Mais le sens de la solidarité n'est pas le premier sens moral. C'est le sens d'une coopération. Alors c'est très important au point de vue de l'éducation, de voir qu'à 14 ans, il y a une nouvelle dimension du sens moral qui sera un sens politique. Et c'est possible que le sens politique ne naisse qu'à 14 ans. Ce serait intéressant à voir. Ce qui est sûr, c'est que le sens moral naît beaucoup plus vite. Il naît à partir du lien qui existe entre l'enfant et sa mère. Ce lien personnel. Et je prends la mère parce que normalement, la mère est quand même plus proche de l'enfant. Mais je n'exclus pas le père, il faut faire attention de ne pas exclure le père. Non? Mais c'est vrai que le lien personnel de l'enfant à l'égard de sa mère, ce lien d'amour, qui est très confus du reste, hein, qui n'est pas clair, et qui n'est pas choisi, qui s'impose, parce que c'est une nécessité de vie. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une nécessité de vie. La mère est le milieu nourricier. C'est le milieu dans lequel l'enfant peut vivre. Et alors, à l'intérieur de ce milieu, il y a ce point de vue de ce lien personnel. Ce lien personnel va prendre progressivement une conscience plus grande. Vous voyez, le premier sourire. L'enfant exprime bien, je crois que le premier sourire est quand même réservé à la mère. Normalement, quelquefois, le père le prend en passant, mais c'est la mère qui l'a préparé, qui a disposé. Bon, alors, le premier moment du sens moral va s'exprimer négativement. Et c'est intéressant de voir qu'au point de vue de la manifestation, c'est le point de vue négatif. C'est quand l'enfant refuse quelque chose. Quand l'enfant désobéit, il dit non. Les psychologues ont très bien noté l'âge du oui et l'âge du non. Et les psychologues là-dessus font des remarques intéressantes parce qu'ils montrent que l'âge du oui est antérieur à l'âge du non. C'est intéressant parce que ça montre bien que l'affirmation est antérieure à la négation. C'est pas si facile que ça de bien comprendre que l'affirmation est antérieure. Psychologiquement, il semble bien que le premier âge de l'enfant dans ses liens avec la mère et avec le père, ce sont des liens positifs. Et ce n'est que petit à petit, quand il grandit, j'ose pas dire les âges, je les ai lus, mais je l'oublie, ça n'a pas d'importance en tout ça, dans tous les livres. Alors on voit la négation de l'enfant. L'enfant dit non. Je crois que c'est à ce moment-là que se manifeste le sens moral, la capacité de dire non. Donc il y a un choix. Alors ça noue. Mais voyez que cette négation, elle est à l'intérieur d'un lien positif. Et d'un lien positif d'amour qu'il y a eu entre l'enfant et sa mère. Même si cet amour, encore une fois, est très imaginatif, que cet amour est très fondamentalement naturel pour les besoins de la vie, mais il y a un lien qui s'est réalisé entre l'enfant et sa mère. Entre l'enfant et son père. Et qu'à l'intérieur de ce lien, la négation va manifester que ce lien n'est pas uniquement instinctif, qu'il implique une possibilité de choix. Vous savez que c'est toujours au moment de la négation qu'on voit le mieux les liens qu'on a avec quelqu'un. Quand on doit se séparer, par exemple. On vit journellement avec quelqu'un, on est tellement habitué qu'il ne se pose pas de problème, et le jour où il s'en va, le jour où il part, tiens, croyez pas que le lien était si fort. Je n'avais pas constaté que le lien était si fort. Et c'est vrai que la négation du côté affectif manifeste alors très fort les liens. Les liens qui existaient profondément. Alors je crois que, vous voyez, dans l'ordre génétique, il faut bien voir que le sens moral naît à l'intérieur de l'amour. Mais je ne pourrais pas fonder une morale là-dessus. Parce que d'abord, c'est du vécu. Ça a été vécu. C'est du passé. Donc je ne peux pas fonder la morale sur un sens passé. Et que cet amour est très imparfait. Il est fondamental et très fort, mais il est très imparfait. Et qu'il faut l'aspect négatif pour le comprendre. Et alors, si je fondais une morale là-dessus, j'aurais le danger de faire croire que la négation est antérieure à l'affirmation. Parce que c'est vrai, l'enfant dit non, mais la mère le reprend, et puis le fait que petit à petit, mais ça fait comprendre que le sens moral se noue autour de l'obéissance. Alors ça, on y reviendra, mais j'aimais poser cette pierre d'attente. Le lien entre l'amour et l'obéissance, et entre la négation par rapport à l'obéissance, il y aura là un problème sur lequel il faudra revenir, parce que, au plan génétique, il faut toujours avoir les deux dimensions, puisque nous sommes à la fois des êtres qui devenons, et en même temps des êtres qui existons, et il faut donc bien voir ces deux dimensions, l'aspect actuel et l'aspect génétique, voir que des deux côtés, c'est bien l'amour qui est le fondement de l'éveil au niveau moral. Il y aura un troisième aspect que je note aussi maintenant, c'est un nota bene. Ce sont des pierres d'attente, les nota bene. Et c'est intéressant de les voir, parce que vous les posez, sans doute, au fond, c'est normal qu'on se le pose, pour essayer toujours de trouver le fondement de la morale. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre l'amour maternel comme fondement de la morale? Je dis non. Je dis que c'est l'amour d'amitié qui implique le choix, qui est vraiment le fondement d'une philosophie morale. Mais ce qui n'empêche que l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère est quelque chose de tout à fait fondamental et premier génétiquement. Et donc c'est premier génétiquement avec toutes les imperfections de l'ordre génétique. Mais en même temps, l'aspect très fondamental de l'ordre génétique. L'ordre génétique est quelque chose de très fondamental. Et à ce point de vue-là, très important et très intéressant. J'ajoute, l'enfant qui a été baptisé, ça c'est pour l'éthique chrétienne, c'est un nota bene pour l'éthique chrétienne, pour montrer que ça se pose ici. L'enfant qui a été baptisé, et qui a une mère chrétienne, et qui vit donc dans un milieu chrétien, qu'est-ce que fait sa mère, si elle est vraiment profondément chrétienne? La première œuvre commune qu'elle fait avec son enfant, c'est la prière. Et je dis bien la première œuvre commune qu'elle fait avec son enfant. Parce que d'habitude, elle est source de don. Et ce n'est pas une œuvre commune qu'elle fait avec son enfant. Tandis que la première œuvre commune qu'elle fait, c'est de prier avec lui. C'est de lui apprendre à faire au nom du Père, c'est de lui apprendre de dire Jésus, c'est de lui apprendre de s'adresser à Dieu. Alors vous voyez que là, il y a quelque chose aussi très important, c'est que dans l'ordre de l'éthique chrétienne, il y a une coopération de la mère et de l'enfant qui est très très rapide, cette chose-là, qui peut se faire très vite. Parce que les vertus théologales peuvent s'exercer avec un minimum de développement psychologique. On le sait, avec les handicapés. On le sait, il faut un minimum pour que les vertus théologales puissent s'exercer. Et de ce point de vue-là, les vertus théologales ont donc un poids plus, j'allais dire, plus rapide que la morale. Chez un chrétien, chez un petit enfant qui a été baptisé et qui vit dans un milieu chrétien, d'une certaine manière, il n'y a pas d'éveil moral sans l'éveil chrétien. Parce que le point de vue de la prière s'est développé antérieurement. c'est de l'obéissance. Et même très souvent, la mère s'est appuyée sur l'amour du Christ, l'amour de Jésus, pour donner un motif à l'obéissance. Vous voyez, alors là, il y a un problème très important pour essayer de comprendre justement ce que représente concrètement le pot, le comment de l'éveil moral. Et l'éveil moral, là, au point de vue chrétien, je crois, est très important à bien saisir. Parce que le point de vue des vertus théologales s'exerce avant le point de vue psychologique. Il montre qu'une catéchèse doit être théologale et non pas psychologique. Elle doit être théologale. C'est l'exercice des vertus théologales qui, de fait, est antérieur au développement psychologique et au développement moral. Et le développement moral et psychologique est enveloppé de l'exercice des vertus théologales. Alors, vous voyez, à ce point de vue-là, qu'une éthique chrétienne, c'est pas juste une pierre d'attente qui reviendra, mais comme on est au point de départ, il faut le noter, ça. Il faut voir que, de fait, dans une éthique chrétienne, on voit en effet un primat de la foi, de l'espérance et de l'amour, sur le point de vue psychologique. Alors on essaiera de comprendre ça quand on sera plus tard, hein, mais je vais le noter tout de suite, parce que je crois que c'est important. C'est important de noter ça. Il faut essayer de voir. Maintenant nous revenons à la conscience que nous avons de l'amour d'amitié. Et là nous sommes en face d'un ordre de perfection. Nous avons pleinement conscience que l'amour d'amitié nous apporte un épanouissement humain qui a ce caractère tout à fait particulier. C'est même très très remarquable de sentir ça. C'est par là qu'il y a l'éclatement de la famille. Ce qui peut faire des drames, en fait, hein. Parce que c'est ordinairement source de drames. Parce que la famille a de la peine à comprendre, et elle devrait comprendre. Elle a peine à comprendre que, de fait, la famille ne suffit pas. Parce que l'amour d'amitié, c'est justement un dépassement par rapport à la famille. Alors, on acceptera des petites camaraderies, très très bien, surveillées, les gens, par les parents, mais on n'acceptera pas un éclatement au niveau de ce que représente l'amour d'amitié, qui est quelque chose. C'est sortir de la famille. Vous voyez, ce qui montre bien que le fondement, au point de vue philosophie morale, le fondement de la morale n'est pas dans la famille. Il est personnel. Et ça me semble très net. Hein. Ça me semble très net d'abord. Hein. C'est facile à comprendre que la famille ne se fonde pas sur une famille. Elle se fonde sur une famille d'une façon lointaine, mais d'une façon prochaine, elle se fonde sur l'amour de l'époux et de l'épouse. Et cet amour est un amour personnel. Il peut être téléguidé par les parents, mais pas trop, parce que quand il est téléguidé par trop, on sait que c'est catastrophique. Mais oui, je veux dire, les fameux mariages, on a tellement écrit là-dessus, il peut y avoir des conventions et pendant un certain temps, de fait, les mariages se faisaient par des mariages de famille, n'est-ce pas? C'est vrai, Fourastier écrit là-dessus, n'est-ce pas? Un livre qui a montré que de fait, il n'y a pas si longtemps que les mariages étaient encore des mariages de famille. Donc, c'est pas l'amour des conjoints qui est... Ça n'a pas d'importance, ça c'est des conventions. Ce qui est sûr, c'est que la famille repose sur l'amour de l'époux et de l'épouse. Donc, avant la famille, il y a un amour d'amitié. Et l'autre éclatement de la famille, c'est quand les membres de la famille, les enfants, commencent à se choisir de vrais amis. Et ça fait un éclatement de la famille, qui est souvent très difficile à supporter pour les parents. Parce qu'ils ont de la peine à comprendre que l'enfant ne trouve pas son bien propre, personnel, uniquement dans la famille. Il y a des exemples à donner là-dessus. Ce serait très intéressant. c'est, on sait bien, il faut le savoir, ces choses-là. C'est même très important au point de vue éducatif. Au point de vue éducatif, c'est très très important dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut les suppléants de la famille. Et il faut autant que possible comprendre que la famille ne suffit plus et ne suffit pas pour. Elle permet l'ordre de la disposition. La famille donne l'ordre de la disposition au niveau moral. Elle donne un milieu d'éclosion, c'est très très bien. Mais le niveau personnel, or, une éthique, c'est justement le point de vue personnel. La famille ne peut pas. Il y a quelque chose qui dépasse. Normalement, parce qu'on pourrait dire que lorsque l'enfant grandit, il peut aimer ses parents d'un amour de choix, prédilection. C'est vrai, ça peut se faire. Alors à ce moment-là, on dirait à l'intérieur de la famille, on trouvera une possibilité de découvrir un véritable amour d'amitié des enfants et des parents. Et au fond, c'est assez exceptionnel. Ça peut se faire, mais c'est assez exceptionnel. Évidemment des parents qui soient d'une grande dimension. Et alors à ce moment-là, ils peuvent capter l'amour de leurs enfants et faire qu'il y ait d'eux une relation personnelle libre qui puisse se réaliser. Et c'est pas exclu du tout, hein. Mais il y a aussi autre chose, et il faut le regarder au point de vue philosophique. Autrement dit, il faut comprendre que c'est toujours sur un choix libre et personnel que se fonde le sens moral. Que l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère ou vis-à-vis de son père, quand il n'est pas arrivé à un choix personnel, ne fait que disposer. On a une morale de l'obéissance. Ce serait très intéressant à regarder. Vous voyez, j'ai donné trois niveaux de la morale, il y aurait un quatrième niveau de la morale. Et c'est vrai, c'est chez Aristote. Ça confirme, mais c'est pas parce que c'est chez Aristote que c'est vrai. Mais alors, vous voyez, éthique chrétienne. Nous cherchons, hein, parce que c'est important à préciser, éthique chrétienne, éthique religieuse, éthique humaine, ou éthique personnelle, pour le nommer personnelle. Et puis alors, éthique embryonnaire, si vous voulez. Vous voyez bien, l'éthique embryonnaire, l'éthique familiale. L'éthique familiale repose et se noue autour de l'obéissance. Un enfant né d'enfant, c'est quand il obéit. Et l'obéissance est d'une certaine manière le premier nœud du côté de la disposition. Aristote dit, vous avez bien cette phrase qu'il ne faut jamais oublier, que c'est le propre de l'esclave d'obéir. Il faut regarder ce qu'Aristote entend par esclave. Hein. Ce n'est pas du tout ce que nous avons dans notre tête. Pas du tout. C'est tout à fait autre chose. Mais évidemment, c'est le même mot. Alors, c'est pour ça que quand le Père Hostie traduit doulos esclave, on dit Marie esclave de Dieu, nous savons pas du tout. Mais il faut comprendre, le mot esclave peut s'entendre comme celui qui est attaché à quelqu'un d'autre. Parce qu'il sait que sans ce quelqu'un d'autre, il ne pourra pas s'épanouir. Vous voyez, c'est celui qui fait un don de lui-même, en quelque sorte, à quelqu'un d'autre. Alors, c'est intéressant de voir, il y a une morale de l'obéissance. Et ça, c'est la morale familiale. C'est le degré le plus fondamental. C'est sans doute ce qu'on retrouverait dans beaucoup de traditions, une morale familiale, basée sur l'obéissance. Elle est basée sur l'obéissance, cette morale familiale. Tandis que la morale personnelle que nous essayons de voir, parce que la morale d'obéissance ne nous en a à disposition, donc ne permettrait pas de découvrir le fondement d'éthique. Il nous découvrirait un fondement imparfait, une disposition. Alors à ce moment-là, je pourrais très bien partir de ce premier amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère qui permet l'obéissance. Alors Aristote dit que c'est propre de l'esclave d'obéir, c'est le propre de l'enfant et c'est le propre de la femme. Alors, aujourd'hui, on le dirait tous les hommes, mais du temps d'Aristote, on peut dire ça, que c'est le propre de l'esclave et le propre de l'enfant. De notre temps, on pourrait dire, c'est le propre du serviteur et de l'enfant. Et il y a une morale au niveau familial qui est le serviteur et l'enfant. Oui, serviteur qui accepte d'être serviteur, qui accepte de se mettre au service et d'être là pour aider. Alors c'est une morale qui est basée sur l'obéissance, mais qui est de l'ordre de la disposition. Pourquoi elle est de l'ordre de la disposition? Parce qu'on ne découvre pas à ce moment-là la véritable fin personnelle. On est relatif à un autre. Étant relatif à un autre, on ne découvre pas son autonomie personnelle. Tant qu'on ne découvre pas son autonomie personnelle, on ne découvre pas véritablement ce côté de la morale. La morale est d'ordre personnel. Hein? Tandis que l'enfant et serviteur, restant enfant et serviteur, reste, si vous voulez, à un niveau qui fait qu'on n'a pas d'autonomie. On est relatif à un autre. On est content que l'autre soit heureux, mais soit, je suis heureux parce que je prends les petites pillettes qui dégringolent de la table du Seigneur. N'est-ce pas? Alors je prends ces petites pillettes et comme elles sont nombreuses, au bout d'un certain temps, je fais mon petit pain. N'est-ce pas? Mais ça ne va jamais très loin. C'est une morale qui n'est pas basée sur une fin personnelle. Elle est médiatisée. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est l'ordre de la disposition. C'est une morale qui repose sur la disposition. Morale familiale, éthique familiale. Alors, c'est vrai qu'il y a l'éthique familiale qui est quelque chose de fondamental et premier. Mais ce n'est pas encore l'éthique. Parce que cette éthique familiale présuppose une éthique personnelle. La famille n'existerait pas s'il n'y avait pas un amour d'amitié entre l'époux et l'épouse. S'il n'y avait pas cet amour d'amitié entre l'époux et l'épouse, il n'y aurait pas la famille. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Bien que, de fait, on puisse dire qu'il y a eu des familles qui ont été fondées sur la famille et pas directement sur le point de vue. Alors, on est en présence de tradition et c'est la tradition qui fait le fondement de vie. Ça existait, ça ne faut pas l'oublier, ça serait intéressant à noter. C'est la tradition, les traditions familiales. Quand les traditions familiales sont très fortes, elles peuvent fonder une certaine éthique. L'éthique de l'obéissance, l'éthique du travail, l'éthique d'un certain bien-être. Mais ça ne va pas jusqu'à l'amitié, ça ne va pas jusqu'à la contemplation, c'est bien évident. C'est l'éthique, au fond, si vous voulez, on trouvera un peu ça dans des idioles. C'est l'éthique familiale. C'est quelque chose de très fondamental, très fondamental. Je le note parce que c'est important de au moins de situer. Parce que, j'allais dire, hein, au point de vue quantitatif, c'est celle-là qui règne le plus. C'est celle-là qui a régné le plus, disons. Qui a régné le plus. Et c'est celle-là qui continue de régner dans certains pays, c'est très vrai. Elle existe. L'éthique familiale, l'éthique de la tribu, c'est quelque chose. On essaiera de le détecter hein, dans l'écriture, parce que ça existe même au point de vue interchrétienne. Et puis alors, subitement, la famille prend tout son épanouissement de famille quand il y a un véritable amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Et ceci, vous voyez, c'est là où on voit très bien comment l'éthique chrétienne a libéré l'homme des traditions familiales. Il y a eu un moment, alors ça c'est un point de vue historique dans l'histoire de l'Église, il y a eu un moment très intéressant, c'était au Concile de Trente, où les pères de l'Église, les pères du Concile, se sont posé la question, est-ce que le consentement des parents est nécessaire pour la validité du mariage? Et c'était les théologiens français, ils ont beaucoup changé de vie, les théologiens français qui soutenaient que le consentement des parents était nécessaire pour la validité du mariage. Donc vous voyez, la tradition familiale qui passait devant le point de vue de l'amour d'amitié. Et c'est les théologiens espagnols qui s'appuyant sur saint Thomas, Saint Thomas était plus avancé, il est toujours plus avancé, que les théologiens français. C'est extraordinaire. Et c'est les théologiens espagnols qui, s'appuyant sur saint Thomas, ont rappelé pas du tout le mariage repose sur un amour d'amitié. Les parents ont un droit de conseil, mais pas plus. Et donc, c'est l'amour d'amitié qui fonde vraiment la famille. Et à ce moment-là, en faisant ça, ça avait l'air de rien, mais c'était capital comme vision. Les parents ont un droit de conseil, mais pas plus. Le mariage repose sur le choix libre de l'épouse et tout. Et donc, il repose sur un amour d'amitié. Ce qui montre que la tradition familiale et l'éthique familiale n'est que de l'ordre de la disposition. Vous voyez, c'est très important à saisir ça. Parce qu'alors là, on voit comment l'éthique chrétienne a libéré l'amour d'amitié. Et a mis l'amour d'amitié en pleine lumière. C'est important parce que ça nous fait comprendre comment l'Évangile redonne à la personne humaine toute sa dimension. C'est l'Évangile qui a fait ça. Et le dépassement de la foi par rapport aux traditions familiales. C'est toujours très important de comprendre comment la foi nous libère. D'une libération divine, d'une libération profonde, qui fait un lien avec directement le Christ. Et que les traditions familiales, si importantes qu'elles soient, si bonnes qu'elles soient, restent des traditions et donc de l'ordre de l'opinion, de l'ordre de la disposition, ils ne donnent pas de principe. Les traditions ne donnent jamais de principe. Les traditions ne donnent jamais de principe. Il faut aller plus loin que les traditions pour découvrir les principes. Traditionnalisme, dialectisme, c'est très bien, c'est la chute des principes dans quelque chose d'assez pesant. Mais bon, alors, ceci c'est pour revenir toujours à ce fait, hein, que vraiment, c'est l'amour d'amitié qui est le pivot, l'axe d'une philosophie éthique. Ça ne peut pas être des traditions familiales, les traditions, l'éthique religieuse. Dans la mesure où elle est première, elle retombe dans l'éthique familiale. Dans la mesure où elle est personnelle, alors à ce moment-là, elle a sa place comme un achèvement de l'éthique personnelle. Nous avions déjà dit. Alors, une fois que nous avons bien saisi ça, oui, c'est Nota Bene qui viennent enrichir et préciser certaines choses que nous avons données et qui sont importantes à saisir. C'est très important aujourd'hui de bien voir ces choses avec netteté. Je vous disais donc la dernière fois, analysons ce qu'est l'amour d'amitié. Première chose que nous devons comprendre, c'est que l'amour d'amitié implique un amour. Et c'est pour ça que je dis amour d'amitié et non pas amitié. Implique un amour qui se porte sur une personne humaine. Donc un amour personnel qui regarde une personne humaine comme mon bien. Cet amour premier, dans ce qu'il a de tout à fait fondamental, a quelque chose de naturel. Il est personnel, mais il est naturel. Naturellement, on a un appétit naturel vers un bien. Et la personne humaine peut être pour moi un bien. Ça dépend comment je la connais et comment elle m'apparaît. Tout amour présuppose une connaissance. Et donc, il y a une connaissance qui fait que cette personne humaine, non pas n'importe laquelle, c'est pas l'humanité, hein, l'humanité ça ne m'attire pas du tout. Tandis que c'est toujours une personne humaine, hein, c'est telle personne particulière, qui de fait éveille en moi un amour spirituel. Éveille en moi cet amour spirituel. Cet amour spirituel est vraiment un amour. Alors, si je veux l'étudier, il faudrait faire là l'analyse de ce que c'est que l'amour. Vous savez bien, saint Thomas n'a analysé l'amour qu'au niveau de l'amour passionnel. si on veut avoir une connaissance de l'amour chez Saint Thomas, on est obligé de revenir à la passion. Et on comprend très bien Saint Thomas du temps, en tant que théologien, parce que d'abord, de son temps, les passions n'étaient pas tellement aimées à cause de l'influence de l'Église. Et cette influence de l'Église demeurant jusque dans la vie saine, et donc demeurant jusque dans son être. Et saint Thomas a étudié spécialement la passion pour essayer de comprendre comment dans le Christ il y avait de véritables passions. Des passions complètement dominées et mesurées par l'amour spirituel, les appelle des pro-passions, mais c'est des passions quand même. Et saint Thomas a étudié profondément le traité des passions pour mieux comprendre comment le Christ est un homme parfait, ayant des passions. C'est beau parce que c'est une des originalités de saint Thomas par rapport à son temps, si vous voulez. C'est le théologien des passions. C'est peut-être à écrire aujourd'hui. Saint Thomas, le théologien des passions. Alors, moi, on va en train de l'aimer. Et donc, je serais le théologien des passions. Si vous mettez saint Thomas le théologien de l'être, bon, alors là, ce sera moins amusant. Tandis que le théologien des passions, ça, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est un travail à faire. Ça serait très beau, ça. Et, premier livre de la communauté Saint-Jean, saint Thomas, théologien des passions. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi. Alors, ce serait bien comme témoignage d'affection passionnelle vis-à-vis de saint Thomas. Alors, comprendre que c'est dans son traité des passions. Il faut regarder son traité des passions et regarder ce que saint Thomas dit sur l'amour. Ça, c'est très beau, c'est très beau. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Il faut avoir vu le traité des passions, parce que c'est une chose très puissante dans saint Thomas. Alors, saint Thomas traite l'amour passionnel au point philosophique. Nous ne traitons pas ici tout de suite l'amour passionnel, nous traitons l'amour dans ce qu'il a de plus spirituel, l'amour ultime, l'amour le plus enraciné en nous. Ce n'est pas l'amour passionnel qui est l'amour le plus enraciné. L'amour le plus enraciné, c'est l'amour spirituel. Cet amour spirituel est évidemment lié à un amour passionnel, c'est sûr. On ne peut pas chercher un amour spirituel trop pur, parce qu'on risquerait de supprimer la vitalité de l'amour. L'amour saisit la personne humaine dans ce qu'elle a de plus concret. Toujours personnel, l'amour, et individuel. Et donc, cet amour spirituel qui relève de la volonté, c'est le premier acte de la volonté. La volonté est premièrement une capacité d'aimer. Une capacité affective d'aimer. Et donc, ce premier amour implique cette volonté d'aimer. Pas très consciente, hein, mais ça implique cette volonté d'aimer. Vous allez voir, on va essayer de préciser ça, parce que c'est important. Et cet amour premier, spirituel, implique un amour passionnel, implique un amour instinctif. Que c'est l'appétit, et là on peut le dire, c'est l'appétit foncier, premier, de la personne concrète qui se porte vers ce Dieu. Et alors, dans cet amour, il faut distinguer deux moments, un amour inconscient, et puis quand nous prenons conscience, il y a un amour souterrain qui peut très bien ne pas être conscient. Et puis on prend conscience qu'on aime. Il y a un éveil conscient de cet amour, grâce à la connaissance. Hein. Quand cet amour est instinctif, il est inconscient. Quand il y a l'amour qu'on a du chocolat, il est inconscient. C'est sûr, il est inconscient. Il est naturel si le chocolat est bon. Mais il est naturel, mais il est inconscient. Alors évidemment, ce n'est pas l'amour spirituel, hein, c'est l'amour instinctif et passionnel. Mais on peut en prendre conscience à certains moments quand justement on est devenu malade à cause du chocolat qu'on a pris. Alors à ce moment-là, on dit oui, j'ai un amour trop passionné pour le chocolat. Bon, alors on va se corriger. Tandis qu'ici, il s'agit d'un amour spirituel qui met à l'intérieur d'un amour passionnel et à l'intérieur d'un amour instinctif ce poids vers l'autre. Il devient conscient. Et quand il devient conscient, je l'accepte ou je le refuse. Et donc ce premier amour est accepté librement. S'il est accepté, ou il est rejeté librement, s'il est rejeté. Il est donc libre. Et c'est là où s'exerce la première liberté, la liberté la plus fondamentale. Je ne vais pas traiter de la liberté maintenant, hein. Je vais simplement traiter des niveaux de liberté. Et c'est très important de traiter ces niveaux de liberté. Mais cette première liberté qui consiste à accepter un amour. Cet amour, oui, il est tombé du ciel. Cet amour, il est là, présent. Faut-il l'accepter, faut-il pas l'accepter? Alors là, c'est la liberté qui juge de l'acceptation de cet amour ou de la non-acceptation de cet amour. Du rejet de cet amour. Vous voyez, ce premier amour, il est libre. Dans la mesure où il est accepté ou pas accepté. D'une liberté, non pas de choix, mais d'une liberté d'exercice. C'est la première liberté. C'est pas une liberté de choix. J'ai pas choisi, j'ai constaté. C'est beaucoup plus fort qu'un choix. Parce qu'un choix, c'est quelque chose qui vient de... un petit peu mieux, de tout un contexte. Tandis que là, c'est une constatation. On ne sait pas pourquoi. On pourra analyser, dire oui, je comprends très bien. Après coup, on analysera. Mais sur le moment même, on n'a pas choisi. Ça s'est imposé. Et on l'a accepté en disant oui. Il y a sans doute quelque chose de grand là. Alors, vous voyez, ça, c'est le premier amour. C'est très, très fondamental, ce premier amour. Et ce premier amour, je crois que nous devons essayer là de comprendre ce que c'est que l'amour. Alors, c'est là où nous devons comprendre les notes. Il faudrait faire là une philosophie de l'amour, en découvrant toutes les notes et les dimensions de l'amour. Exactement comme on distingue les 10 catégories par rapport à l'être, il faudrait faire ici, vous voyez, non pas les catégories de l'amour, mais ce serait intéressant parce que quand il s'agit de l'être, vous le regardez dans un jugement d'existence externe. Quand il s'agit d'amour ici, vous le saisissez dans une expérience interne. Et c'est vrai, c'est une expérience interne. C'est une expérience interne qui n'exclut pas dans son développement le point de vue du jugement d'existence, puisque cet amour premier va être source d'un amour d'amitié. L'autre qui va répondre. Et donc à ce moment-là, il y aura un jugement d'existence. Parce que ce sera l'ami que je pourrai. Mais dans son premier moment, il reste une expérience interne. C'est la grande expérience interne. C'est le grand dévoilement interne des dimensions de mon cœur profond. De ma volonté dans ce cœur profond. Ma volonté, je la saisis à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais capable d'aimer. Et c'est pour ça qu'il serait très intéressant ici d'étudier ce que Ricoeur appelle une pneumatologie. Mais on comprend ce que ça veut dire. Ce n'est pas une pneumatologie parce que ce n'est pas le logos. Vous ne pouvez pas analyser, mais vous pouvez l'écrire. C'est ça que je dis, c'est l'analogue avec les catégories. Vous pouvez l'écrire. Alors, quel serait les 10 notes de cet amour intérieur. Ça, je vous laisse décrire et chercher. C'est très intéressant. Les 10 notes, je vous les donnerai. Les 10 notes, les 10 dimensions de cet amour. De cet amour dans ce qu'il a de profond, de premier, dans ce qu'il a de pur. De pur. Encore une fois, la pureté propre de l'amour, et la pureté propre de l'amour ne se sépare pas de la passion. Attendez, dans le purisme ne serait pas vrai. L'amour pur assume la passion. Quand il ne l'assume pas, c'est très dangereux. Vous savez bien ce que Brémond dit admirablement, à propos de l'amour pur, lui, de toute façon spirituelle, mais c'est tellement joli, on peut très bien le reprendre comme un exemple pour justement de montrer que l'amour pur assume la passion et il ne s'oppose pas à la passion. Parce que c'est cette sainte femme qui voulait offrir un don généreux au curé, offrir les cloches. Regardez si les cloches sont comme ça données par intention. Alors cette personne dit surtout au curé, ne dites pas que je vous ai donné la somme qu'il faut pour acheter. Je veux que ce soit vraiment un don absolument pur. Dès que Dieu dit ça, très bien, personne qui veut faire un don absolument pur. Mais alors elle dit au curé, monsieur le curé, cependant écrivez mon nom dedans pour que chaque fois que ça tape sur mon nom, alors ce sera mon nom qui résonnera comme ça. Vous voyez, c'est merveilleux, comme amour pur. La petite recherche, et au fond, c'est parce que justement, on a cru que l'amour pur pouvait se séparer de la passion. C'est très très joli comme exemple, vous avez dit vraiment. Alors, je crois que c'est vrai, c'est tout à fait authentique. Et on voit ça, ça se voit constamment, ça. Ça manque de réalisme. Il faut se réaliser dans l'amour. Comme il y a un réalisme de l'être, il y a un réalisme de l'amour. Et comme il y a les 10 catégories dans l'ordre de l'être, il faudrait donner les 10 catégories de l'amour. Les 10 dimensions, parce qu'en réalité, ce n'est plus les catégories, c'est les 10 dimensions de l'amour. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très faciles à comprendre. Hein. Les premières, comme toujours, les premières sont plus faciles. Après, c'est plus difficile. Ne cherchez pas des calques analogiques par rapport aux catégories. Hein. Ça n'irait pas très bien. Mais bon, mais... Parce que ça n'irait pas très très bien, c'est vrai. Mais vous avez l'aspect extatique. Oui, c'est juste l'inverse de la substance. La substance, c'est l'intase, hein, comme on dit. Tandis que ça, c'est l'extase. Donc, c'est juste l'inverse de la substance. C'est l'extase. L'amour est extatique, il me fait sortir de moi. Première dimension d'amour. Tout amour spirituel est extatique. Il fait sortir de moi, il fait aller vers l'autre. Il tend vers l'autre. Chose extraordinaire que fait l'amour. Je me quitte. Je me quitte. C'est en fait que l'amour est pur. Parce qu'il est au-delà de tout retour sur soi. Dès qu'il y a un retour sur soi, c'est plus ça. C'est plus l'amour. Le retour sur soi, c'est l'intelligence. Le scrupule, c'est un manque d'amour. C'est le retour sur soi. L'amour est extatique. C'est sortir, aller vers l'autre. Et alors on s'oublie. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait l'inverse de la substance. Juste. Alors, l'amour est aussi ce qui permet un accueil. Il y a un accueil. Je reçois l'autre. Et alors, extraverti, introverti, comme diront les psychologues. Hein. Mais vous voyez, c'est faux comme distinction. Avec tout le respect qu'on leur doit, c'est faux comme distinction. Tout amour est extraverti et introverti. Alors, les conséquences de l'amour peuvent se traduire par l'extraversion ou l'introversion, mais c'est les conséquences. C'est les conséquences. L'amour est lui-même extatique et il permet de recevoir l'autre. Dès que j'aime, je suis accueillant vis-à-vis de l'autre. C'est la béance. On est accueillant vis-à-vis de l'autre. Il y a ce fait très curieux, c'est que dès qu'on aime, on est accueillant. Parce que justement, l'extase me fait sortir de moi-même, et c'est pour ça que je mets priorité dans l'extase. L'amour est premièrement extatique. Et l'extase va réaliser cet accueil, cette ouverture de soi vis-à-vis de l'autre. On est accueillant dès qu'on aime. Quand on aime pas, on n'est plus accueillant. On est préoccupé d'un tas de choses, vous savez bien. Alors on a tout ça dans sa tête. Et on reçoit l'autre en étant complètement absent. Et là l'autre dira, mais c'est curieux, aujourd'hui il était complètement absent. Je ne retrouverai pas la personne. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Il y a des personnes qu'on devine tout de suite dans une présence. La présence implique la sortie de soi et que l'autre soit présent en nous. Alors il y a les deux. Et l'amour réalise les deux. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes et l'amour nous permet d'accueillir l'autre. Ça me semble très fort. Et je crois que c'est les deux dimensions premières de l'amour. Vous voyez, sortir de soi, donc c'est comme être tout relatif vis-à-vis d'un autre, tout ordonné vis-à-vis d'un autre, en étant entièrement ordonné à un autre, et puis en même temps accueil de l'autre. Deuxième note, ou troisième note, hein, ça dépend quand même de vous, la vulnérabilité. L'amour me rend vulnérable. C'est là. Alors vous trouverez des 10 notes hein, pour la fois prochaine. J'aurai le temps d'y réfléchir. C'est important de découvrir ça. C'est important d'essayer de faire une philosophie de l'amour foncier qui va être à la racine de toute la morale. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je ne serai pas là pour recevoir de ce miracle, puisque vous êtes parti ce soir, vous l'aurez, alors j'espère que vous le tiendrez bien, et qu'il pourra dire qu'il a besoin de lui de vous apporter les gens. C'est un ami, thank you.